Brouillon de lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner envie de le lire à votre tour, et ce, tranquillement et confortablement installé dans votre canapé, par la lecture d'extraits. Et Hervé est en voyage ce mois-ci, eh bien c'est Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Qui va nous lire. Je te laisse nous faire la découverte, Catherine.
Alors j'ai choisi un court roman de Philippe Claudel, qu'il a publié en 2005, qui s'appelle « La petite fille de Monsieur Lynn ».
Le Claudel qui avait eu, quel prix d'ailleurs,
le prix Renaudot pour Les âmes grises, qui a été adapté au cinéma.
Qui a été adapté au cinéma. Alors, Philippe... avec Villeray, je crois bien.
Je ne sais plus, ça se passe pendant la guerre de 14, oui. Je ne me souviens plus des interprètes. Alors Philippe Claudel a écrit beaucoup de romans, plusieurs recueils de nouvelles, c'est également un réalisateur de cinéma et un dramaturge. Et à Blois, on le connaît puisqu'il fait partie des jurés du Goncourt, donc quand il y a la remise du Robles et du Goncourt du premier roman, très souvent il est là.
Il vient voilà. À Blois. Très bien, commençons.
Si tu veux, si je peux te dire un tout petit mot avant. Vas-y. Sur le roman lui-même. Donc c'est, en fin de compte, c'est une histoire d'exil. C'est un court roman, peut-être sous une forme un peu de conte. C'est l'histoire d'un vieil homme qui est parti de son pays natal, ravagé par la guerre, qui est parti avec sa petite fille, Sang Diu. C'est un roman sur l'exil et aussi sur l'importance d'avoir quelque chose auquel on tient. Que ça soit un lien affectif, amoureux, enfin, d'avoir, de ne pas être seul sur Terre. Voilà.
Donc c'est une. Oui, effectivement, une belle idée.
Une belle histoire, et c'est l'histoire aussi d'une, enfin, la rencontre de deux solitudes. C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Lynn. Il est seul à savoir qu'il s'appelle ainsi car tous ceux qui le savaient sont morts autour de lui. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras, l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Lynn le regarde disparaître à l'horizon pendant des heures, malgré le vent qui souffle et la chahute comme une marionnette. Le voyage dure longtemps, des jours et des jours. Et tout ce temps, le vieil homme le passe à l'arrière du bateau, les yeux dans le sillage blanc qui finit par s'unir au ciel, à fouiller le lointain pour y chercher encore les rivages anéantis. Quand on veut l'en faire entrer dans sa cabine, il se laisse guider sans rien dire, mais on le retrouve un peu plus tard sur le pont arrière, une main tenant le bastingage, l'autre serrant l'enfant, la petite valise de cuir bouillie posée à ses pieds. Une sangle entoure la valise afin qu'elle ne puisse pas s'ouvrir, comme si à l'intérieur se trouvaient des biens précieux. En vérité, elle ne contient que des vêtements usagés, une photographie que la lumière du soleil a presque entièrement effacée, et un sac de toile dans lequel le vieil homme a glissé une poignée de terre. C'est là tout ce qu'il a pu emporter. Et l'enfant, bien sûr. L'enfant est sage, c'est une fille. Elle avait 6 semaines lorsque Monsieur Lynn est monté à bord avec un nombre infini d'autres gens semblables à lui, des hommes et des femmes qui ont tout perdu, que l'on a regroupés à la hâte et qui se sont laissés faire. 6 semaines, c'est le temps que dure le voyage, si bien que lorsque le bateau arrive à destination, la petite fille a déjà doublé le temps de sa vie. Quant au vieil homme, il a l'impression d'avoir vieilli d'un siècle. Parfois, il murmure une chanson à la petite, toujours la même, et il voit les yeux du nourrisson s'ouvrir et sa bouche aussi. Il la regarde et il aperçoit davantage que le visage d'une très jeune enfant. Il voit des paysages, des matins lumineux, la marche lente et paisible des buffles dans les rizières, l'ombre ployée des grands banians à l'entrée de son village, la brume bleue qui descend des montagnes vers le soir, à la façon d'un châle qui glisse doucement sur des épaules. Le lait qu'il donne à l'enfant coule sur le bord de ses lèvres. Monsieur Lynn n'a pas l'habitude encore, il est maladroit, mais la petite fille ne pleure pas. Elle retourne au sommeil et lui, il revient vers l'horizon. L'écume du sillage et le lointain dans lequel, depuis bien longtemps déjà, il ne distingue plus rien. Enfin, un jour de novembre, le bateau parvient à destination, mais le vieil homme ne veut pas en descendre. Quitter le bateau, c'est quitter vraiment ce qui le rattache encore à sa terre. Deux femmes alors le mènent avec des gestes doux vers le quai, comme s'il était malade. Il fait très froid, le ciel est couvert. Monsieur Lin respire l'odeur du pays nouveau. Il ne sent rien, il n'y a aucune odeur. C'est un pays sans odeur. Il serre l'enfant plus encore contre lui, chante la chanson à son oreille. En vérité, c'est aussi pour lui-même qu'il la chante, pour entendre sa propre voix et la musique de sa langue. Monsieur Lin et l'enfant ne sont pas seuls sur le quai, ils sont des centaines comme eux, vieux et jeunes, attendant docilement leurs maigres effets à leur côté, attendant sous un froid tel qu'ils n'en ont jamais connu, qu'on leur dise où aller. Aucun ne se parle. Ce sont de frêles statues au visage triste et qui grelottent dans le plus grand silence. Une des femmes qui l'a aidé à descendre du bateau revient à lui. Elle lui fait signe de le suivre. Il ne comprend pas ses mots, mais il comprend ses gestes. Il montre l'enfant à la femme. Elle le regarde, paraît hésiter et finalement sourit. Il se met en marche et la suit. Les parents de l'enfant étaient les enfants de Monsieur Lin. Le père de l'enfant était son fils. Ils sont morts dans la guerre qui fait rage au pays depuis des années déjà. Ils sont partis un matin travailler dans les rizières avec l'enfant et le soir ils ne sont pas revenus. Le vieil homme a couru, il est arrivé essoufflé près de la rizière. Ce n'était plus qu'un trou immense et clapotant, avec sur un côté du cratère un cadavre de buffle éventré, son joug brisé en deux comme un brin de paille. Il y avait aussi le corps de son fils, celui de sa femme, et plus loin la petite, les yeux grands ouverts, emmaillotée, indemne, et à côté de la petite une poupée, sa poupée, aussi grosse qu'elle, à laquelle un éclat de la bombe avait arraché la tête. La petite fille avait 10 jours. Ses parents l'avaient appelée Sangdiu, ce qui dans la langue du pays veut dire « matin doux ». Ils l'avaient appelée ainsi, puis ils étaient morts. Monsieur Lin a pris l'enfant, il est parti, il a décidé de partir à jamais, pour l'enfant. Lorsque le vieil homme songe ainsi à la petite fille, il lui semble qu'elle se blottit encore davantage contre son flanc. Il serre la poignée de sa valise et suit la femme, tandis que son visage luit sous la pluie de novembre. Parvenu dans une pièce où règne une bonne chaleur, la femme lui désigne une place. Elle le fait asseoir, il y a des tables et des chaises, c'est très grand. Pour l'instant, ils sont seuls, mais un peu plus tard, tous ceux du bateau arrivent dans la salle et s'installent. On leur sert à manger une soupe. Il ne veut pas manger, mais la femme revient près de lui pour lui faire comprendre qu'il faut manger. Elle regarde la petite qui s'est endormie. Il voit le regard de la femme sur l'enfant et il se dit qu'elle a raison. Il se dit qu'il faut qu'il mange, qu'il prenne des forces pour l'enfant, sinon pour lui. Il n'oubliera jamais la saveur muette de cette première soupe avalée sans cœur, alors qu'il vient de débarquer, qu'au dehors il fait si froid et qu'au dehors ce n'est pas son pays. C'est un pays étrange et étranger, et qui le restera toujours pour lui malgré le temps qui passera, malgré la distance toujours plus grande entre les souvenirs et le présent. La soupe est comme l'air de la ville qu'il a respiré en descendant du bateau. Elle n'a pas vraiment d'odeur, pas vraiment de goût. Il n'y reconnaît rien. Il n'y trouve pas le délicieux picotement de la citronnelle, la douceur de la coriandre fraîche, la suavité des tripes cuites. La soupe entre dans sa bouche et dans son corps et c'est soudain tout l'inconnu de sa vie nouvelle qui vient en lui. Le soir, la femme conduit Monsieur Lin et l'enfant dans un dortoir. L'endroit est propre et spacieux. Deux familles de réfugiés y sont déjà installées depuis 3 semaines. Elles ont pris leurs habitudes et leurs aises. Elles se connaissent pour être originaires de la même province du Sud. Ensemble, elles ont fui, dérivé longtemps sur une épave avant d'être recueillies à bord d'un vrai bateau. Il y a 2 hommes, jeunes, l'une a une femme, l'autre 2. Les enfants au nombre de 11 sont bruyants et joyeux. Tous regardent le vieil homme comme un gêneur et le nourrisson qu'il porte avec des yeux étonnés un peu hostiles. Monsieur Lin sent qu'il les dérange. Malgré tout, il se force à lui faire bon accueil, s'incline devant lui, l'appelle oncle, comme c'est la coutume. Les enfants veulent prendre la petite Sangdiu dans leurs bras, mais il leur dit d'une voix calme qu'il n'y tient pas. Il la garde contre lui. Les enfants haussent les épaules. Les femmes chuchotent, puis se détournent. Les 2 hommes se rassoient dans un angle et reprennent leur partie de mahjong. Le vieil homme regarde le lit qu'on lui a attribué. Il pose délicatement l'enfant à terre, enlève le matelas du sommier, le place à même le sol. Il couche l'enfant sur le matelas. Enfin, il s'allonge à côté d'elle, tout habillé, tenant dans sa main la poignée de sa valise. Il ferme les yeux, oublie les familles qui se sont mises en cercle et commencent à manger. Il ferme les yeux et s'endort en songeant au parfum du pays natal. Des jours passent. Monsieur Lin ne quitte pas le dortoir. Il consacre tout son temps à s'occuper de l'enfant, avec des gestes tout à la fois attentionnés et malhabiles. La petite ne se révolte pas, elle ne pleure jamais, ne crie pas davantage. C'est comme si, à sa façon, en réprimant ses pleurs et ses désirs impérieux de nourrisson, elle voulait aider son grand-père. C'est ce que pense le vieil homme. Les enfants le regardent et souvent se moquent de lui, mais sans oser le faire à haute voix. Les femmes parfois rient aussi en le voyant s'empêtrer dans ses gestes alors qu'il la change ou la lave. « Oncle, vous n'y connaissez rien, laissez-nous faire. Nous n'allons pas la casser. » Et elle rit de plus belle. Les enfants aussi, encore plus fort que leur mère. Mais à chaque fois, d'un signe de tête, ils refusent leur aide. Les hommes soufflent d'un air désolé. Ils reprennent leurs palabres et leurs jeux. Monsieur Lin se moque de ce qu'ils peuvent penser de lui. Rien d'autre ne compte que sa petite fille. Il veut s'en occuper le mieux possible. Souvent, il lui chante une chanson. La femme du premier jour, celle qu'il a surnommée en lui-même la femme du quai, vient chaque matin apporter des provisions et s'enquérir de la santé de tous. Une jeune fille l'accompagne. Elle sait la langue du pays, elle sert d'interprète. « Vous n'êtes pas encore sorti, oncle ? Mais pourquoi ne sortez-vous pas ? Il faut prendre l'air !» Il dit non en silence. Il n'ose pas avouer qu'il a peur de sortir, d'aller dans cette ville inconnue, dans ce pays inconnu, peur de croiser des hommes et des femmes dont il ne connaît pas les visages et ne comprend pas la langue. La jeune interprète regarde l'enfant puis parle un long moment à la femme du quai. La femme lui répond, elles discutent ensemble, la jeune fille reprend. « La petite va dépérir si vous ne l'emmenez pas promener. Regardez, oncle, elle a un teint si blanc, on dirait presque un jeune fantôme. » Les mots de la jeune fille l'inquiètent, il n'aime pas les fantômes. Il y en a déjà trop qui viennent le tourmenter dans ses nuits. Il serre un peu plus Sang Diu contre lui et promet de la promener le lendemain si le temps n'est pas trop froid. « Le froid ici, oncle, lui dit la jeune fille, c'est comme la plus chaude du pays. Il faudra vous y habituer. » La femme du quai s'en va avec la jeune fille interprète. Monsieur Lin les salue cérémonieusement, ainsi qu'il le fait toujours. Le lendemain, pour la première fois, il sort du dortoir et retrouve le dehors. Il y a du vent. Un vent qui vient de la mer et dépose un peu de sel sur ses lèvres. Le vieil homme passe sa langue sur ses lèvres pour y prendre le goût du sel. Il a revêtu tous les vêtements que la femme du quai lui a donnés le lendemain de son arrivée. Il a sur lui une chemise, trois pulls, un manteau de laine, un peu trop grand, un imperméable ainsi qu'un bonnet à rabat. Il ressemble ainsi à une sorte de gros épouvantail boursouflé. Il a aussi revêtu l'enfant de tous les vêtements qu'il a demandés pour elle à la femme du quai. On croirait qu'il porte dans ses bras un énorme ballon de forme oblongue. « N'allez pas vous perdre, oncle, la ville est grande !» lui ont lancé les femmes quand il s'est apprêté à sortir. Elles ont dit cela en riant. « Attention à ce qu'on ne vous vole pas l'enfant !» a repris l'une d'elles. Ils ont alors tous ri, les femmes, leurs fils et leurs filles, les hommes aussi qui ont levé les yeux. Ils ont ri en le voyant ainsi accoutré, et l'un d'eux a crié au travers de la fumée âcre des cigarettes que tous deux fument sans cesse en jouant. « Si vous n'êtes pas rentré dans un an, on préviendra le bureau des réfugiés. » Il les a salués, il est sorti, terrorisé par ce que les femmes venaient de dire à propos des enfants que l'on vole. Monsieur Lin a marché droit devant lui en ne changeant jamais de trottoir. Il s'est dit que s'il ne changeait jamais de trottoir et ne traversait aucune route, il ne pourrait pas se perdre. Il lui suffirait de revenir sur ses pas pour retrouver l'immeuble du dortoir. Alors il marche droit devant lui en tenant l'enfant contre lui, l'enfant subitement devenu énorme à cause de tous les vêtements qui couvrent son corps. Le froid colore ses joues qui dépassent des lainages. La petite a bien vite un visage d'un beau rose tendre qui lui rappelle les boutons de nénuphar, ceux qui éclosent au tout début du printemps dans les mares. Lui, ses yeux pleurent. Le froid fait venir les larmes qu'il laisse couler sur son visage sans pouvoir les essuyer car il tient sa petite fille des deux mains, afin qu'aucun voleur ne puisse la lui prendre. Il avance sur le trottoir sans vraiment regarder la ville, trop occupé à sa marche même. La femme du quai et la jeune fille interprète ont eu raison. C'est vrai que ça fait du bien de bouger un peu, de marcher. Et l'enfant qui le regarde avec ses petits yeux brillants comme une pierre noire et précieuse semble penser de même. Monsieur Lin marche ainsi un long moment se rendant à peine compte qu'il repasse sans cesse devant l'immeuble du dortoir, car ne quittant jamais le même trottoir, sa promenade circulaire lui fait simplement faire le tour d'un grand pâté de maison. Au bout d'une heure environ, il se sent fatigué et s'assoit sur un banc, face à un parc qui est de l'autre côté de la rue. Il installe la petite sur ses genoux et prend dans sa poche une enveloppe dans laquelle il a glissé du riz cuit. Il met le riz dans sa bouche, le mastique pour le rendre plus onctueux, comme une bouillie, puis le retire de sa bouche et le donne à l'enfant. Il laisse ensuite aller ses yeux tout autour de lui. Rien ne ressemble à ce qu'il connaît. C'est comme de venir au monde une seconde fois. Passent des voitures qu'il n'a jamais vues en nombre incalculable, dans un balai fluide et réglé. Sur les trottoirs, les hommes et les femmes marchent très vite, comme si leur survie en dépendait. Aucun n'est en guenille, aucun ne mendie, personne ne fait attention à personne. Il y a aussi beaucoup de magasins, leurs vitrines larges et spacieuses débordent de marchandises dont le vieil homme ne soupçonnait même pas l'existence. Regardez, cela lui donne le tournis. Il repense à son village comme on pense à un songe qu'on fait et dont on ne sait plus très bien s'il est vraiment un songe ou une réalité perdue. Au village, il n'y avait qu'une rue, une seule. Le sol était de terre battue. Quand la pluie tombait violente et droite, la rue devenait un ruisseau furieux dans lequel les enfants nus se coursaient en riant. Lorsqu'il faisait sec, les cochons y dormaient en se vautrant dans la poussière, tandis que les chiens s'y poursuivaient en aboyant. Au village, tout le monde se connaissait et chacun, en se croisant, se saluait. Il y avait en tout 12 familles, et chacune de ces familles savait l'histoire des autres, pouvait nommer les grands-parents, les aïeux, les cousins, connaissait les biens que les uns et les autres possédaient. Le village, en somme, était comme une grande et unique famille, répartie dans des maisons dressées sur des pilotis et sous lesquelles les poules et les canards fouillaient le sol et caquetaient. Le vieil homme se rend compte que lorsqu'il parle en lui-même du village, c'est au passé qu'il le fait. Cela lui pince le cœur. Il sent vraiment son cœur se pincer. Alors il pose fortement sa main libre sur sa poitrine à la place du cœur pour faire cesser le pincement. Monsieur Lin n'a pas froid sur le banc. Penser au village, même au passé, c'est un peu y être encore, alors qu'il sait qu'il n'en reste rien, que toutes les maisons ont été brûlées et détruites, que les animaux sont morts, chiens, cochons, canards, poules, ainsi que la plupart des hommes, et que ceux qui ont survécu sont partis aux quatre coins du monde, comme lui l'a fait. Il relève le col de son imperméable et caresse le front de l'enfant qui dort. Il essuie le riz qui a coulé de part et d'autre de la bouche de la petite fille. Il s'aperçoit soudain qu'ils ne sont plus seuls sur le banc. Un homme s'est assis qui le regarde et regarde la petite aussi. Il doit avoir le même âge que M. Lin, sans doute, peut-être un peu moins vieux tout de même. Il est plus grand, plus gros et porte moins de vêtements. L'homme esquisse un sourire. « Pas chaud, hein ?» Il souffle sur ses mains, prend un paquet de cigarettes dans une de ses poches, tape sur le fond avec un geste précis qui fait jaillir une cigarette. Il tend le paquet à M. Lin qui fait non de la tête. « Ah, vous avez raison, dit l'homme. Je devrais arrêter. » « Mais avec tout ce qu'on devrait arrêter... » Il met la cigarette entre ses lèvres d'un geste simple et doux. Il l'allume, en aspire longuement la première bouffée, ferme les yeux. « Ah, c'est tout de même bon, finit-il par murmurer. » Le vieil homme ne comprend rien à ce qu'il dit. Pourtant, il sent que les paroles ne sont pas hostiles. « Vous venez souvent ?» reprend l'homme. Mais il ne semble pas attendre de réponse. Il aspire la fumée de sa cigarette, comme s'il en goûtait chaque bouffée. Il continue à parler sans vraiment regarder M. Lin. « Moi, je viens presque tous les jours. Oh, c'est pas que c'est très joli, mais l'endroit me plaît, il me rappelle des souvenirs. » Il se tait, jette un œil à l'enfant sur les genoux du vieil homme, puis il regarde le vieil homme engoncé dans ses couches de vêtements et revient ensuite au visage de l'enfant. « Une belle petite poupée que vous avez là. Comment s'appelle-t-elle » Il joint le geste à la parole, montrant l'enfant du doigt et relevant le menton d'un air interrogatif. M. Lin comprend. « Sang Diu, dit-il. « Sang Diu, reprend l'homme, drôle de prénom. « Moi, c'est Bark. Et vous ?» Et il lui tend la main. « Tao Lai, dit M. Lin, selon la formule de politesse qu'on utilise dans la langue du pays natal pour dire bonjour à quelqu'un. Et il serre dans ses deux mains la main de son voisin, une main de géant aux doigts énormes, calleux, blessé, strigué de crevasses. « Eh bien, bonjour, monsieur Tao Lai, dit l'homme en souriant. « Tao Lai, répète une fois encore le vieil homme, tandis que tous deux se serrent longuement la main. Le soleil perce les nuages, ce qui n'empêche pas le ciel de demeurer gris, mais d'un gris qui s'ouvre sur des trouées blanches à des hauteurs vertigineuses. La fumée de M. Bark semble vouloir rejoindre le ciel. Elle s'échappe de ses lèvres, puis monte très vite. Parfois, il la souffle par ses narines. M. Lin pense alors aux naseaux des buffles, au feu aussi, allumé dans la forêt le soir afin d'éloigner les bêtes sauvages et qui se consument avec lenteur durant les heures de la nuit. « Ma femme est morte, » dit M. Bark tout en écrasant le mégot de sa cigarette sur le trottoir avec le talon de sa chaussure. « Cela fait 2 mois. 2 mois, c'est à la fois long et très court aussi. Je ne sais plus au juste mesurer le temps. J'ai beau me dire 2 mois, c'est-à-dire 8 semaines, c'est-à-dire 56 jours, ça représente plus rien pour moi. » Il reprend son paquet de cigarettes, entend de nouveau une au vieil homme qui refuse encore en souriant, puis il la glisse entre ses lèvres, l'allume, tire la première bouffée, les yeux clos. Elle travaillait en face dans le parc, elle tenait un manège. Vous avez déjà dû le voir, forcément, des petits chevaux en bois verni, un manège à l'ancienne, il n'y en a plus guère. Monsieur Bark se tait, il fume en silence. Monsieur Lin attend que la voix reprenne. Sans qu'il sache le sens des mots de cet homme qui est à côté de lui depuis quelques minutes, il se rend compte qu'il aime entendre sa voix, la profondeur de cette voix, sa force grave. Peut-être, d'ailleurs, aime-t-il entendre cette voix parce que précisément elle ne peut comprendre les mots qu'elle prononce, et qu'ainsi il est sûr qu'ils ne le blesseront pas, qu'ils ne lui diront pas ce qu'il ne veut pas entendre, qu'ils ne poseront pas de questions douloureuses, qu'ils ne viendront pas dans le passé pour l'exhumer avec violence et le jeter à ses pieds comme une dépouille sanglante. Il regarde son voisin tout en serrant l'enfant sur ses genoux. Vous êtes sans doute marié ou l'avez été. Je veux pas être indiscret, reprend Monsieur Bark, mais vous devez me comprendre. Je l'attendais toujours sur ce banc. Elle fermait son manège à 5 heures en hiver, 7 heures en été. Je la voyais de l'autre côté de la rue quand elle sortait du parc. Elle me faisait un signe de la main. Moi aussi, je lui en faisais un de signe. Mais je vous ennuie, hein. Excusez-moi. Monsieur Bark a posé sa main sur l'épaule de Monsieur Lin en même temps qu'il a prononcé ses dernières paroles. Le vieil homme sent au travers des nombreuses couches de vêtements l'étreinte de la main épaisse qui s'attarde un peu. Il n'ose plus faire un geste. Soudain, une idée lui traverse l'esprit comme une lame. Et si cet homme était un voleur d'enfants, comme le disaient les femmes du dortoir? Il tremble, serre l'enfant très fort contre lui, son visage doit trahir sa peur car Monsieur Bark se rend compte que quelque chose vient de se produire. Gêné, il enlève sa main de l'épaule. « Oh, excusez-moi, je parle, c'est que je parle si peu désormais, je vais vous laisser. » Et il se lève. Aussitôt, le cœur de M. Lin bat moins vite, se calme. Un sourire revient sur son visage et ses mains desserrent leur étreinte sur le corps de la petite. Il s'en veut d'avoir eu un mauvais sentiment à l'égard de cet homme, dont le visage est tout à la fois triste et chaleureux. M. Bark soulève son chapeau. « Au revoir, M. Taolai. Ne m'en veuillez pas pour tout ce que je vous ai dit. » Peut-être à un autre jour. Monsieur Lin s'incline à 3 reprises et serre la main que Monsieur Bark lui tend. Il le regarde s'éloigner jusqu'au moment où Monsieur Bark se perd dans la foule, une foule calme, sans cris, sans heurts, qui va souple et noueuse comme un gros serpent de mer. Le lendemain, le vieil homme sort du dortoir à la même heure. Il s'est vêtu comme la veille, il a habillé la petite de la même façon également. Les femmes et les enfants se sont encore moqués de lui. Les hommes n'ont quant à eux pas même levé les yeux. Ils étaient trop occupés à jouer. Le matin, le dortoir est calme car les 3 épouses sortent avec les enfants. Les enfants commencent à s'accaparer la ville. Ils reviennent avec des mots que M. Lin ne comprend pas et qu'ils font sonner à haute voix dans le dortoir. Les femmes portent dans leurs bras les denrées qu'elles sont allées chercher au bureau des réfugiés, puis elles préparent le repas. Il y a toujours une part pour M. Lin. C'est la tradition qui le veut. Monsieur Lin est le plus âgé, c'est un vieillard, les femmes se doivent de le nourrir, il le sait. Il sait bien qu'elles n'agissent pas ainsi par bonté ni par amour. D'ailleurs, quand l'une ou l'autre lui porte son bol, elle fait une moue qui ne trompe pas. Elle pose le bol devant lui, tourne le dos, s'éloigne sans rien dire. Il la remercie en s'inclinant, mais elle ne voit même pas son geste. Il n'a jamais faim. Il serait seul, il ne mangerait pas. D'ailleurs, s'il avait été seul, il ne serait même pas là, dans ce pays niqué pas le sien. Il serait resté dans son pays. Il n'aurait pas quitté les ruines du village. Il serait mort en même temps que le village. Mais il y a l'enfant, sa petite fille. Aussi se force-t-il à manger, bien que la nourriture dans sa bouche lui semble du carton. Et lorsqu'il l'avale, il ressent comme une nausée. Monsieur Lin marche sur le trottoir avec précaution. L'enfant contre lui ne bouge pas, elle est tranquille, toujours. Le vieil homme avance en faisant des petits pas. Il fait aussi froid que la veille, mais les nombreux habits le protègent. Seuls ses yeux, sa bouche et le bout de son nez s'engourdissent sous la morsure de l'air. La foule est toujours aussi nombreuse. Où peuvent-ils donc aller, tous ces gens ? Monsieur Lin n'ose pas vraiment les regarder, il laisse ses yeux baissés vers le sol. De temps à autre, simplement, il les relève et voit alors des visages. Un océan de visages venir vers lui, le dépasser, le frôler. Mais aucun de ces visages ne fait attention à lui, et encore moins à l'enfant qui repose dans ses bras. Toutes ces femmes, tous ces hommes, Monsieur Lin n'en a jamais vu autant. Il y avait si peu d'habitants au village. Parfois, bien sûr, il allait au marché de la petite ville du district, mais là encore, il connaissait tout le monde. Les paysans qui venaient y vendre leurs marchandises ou bien en acheter vivaient dans d'autres villages, pareils aux siens, entre rizières et forêts, sur le flanc des montagnes dont on ne voyait que rarement les sommets car ils étaient souvent panachés de brume. À songer à cela, M. Lin s'est pris à rêver. Il caresse le front de l'enfant. Il lui murmure la chanson. Il sait qu'elle l'entend, même pendant son sommeil. C'est une très vieille chanson. M. Lin l'a entendue de la bouche de sa grand-mère, qui elle-même la savait de sa propre grand-mère. C'est une chanson qui vient de la nuit des temps et que les femmes chantent à toutes les petites filles du village lorsqu'elles viennent au monde. Et cela depuis que le village existe. Voici ce que dit la chanson. « Toujours il y a le matin, toujours revient la lumière, toujours il y a un lendemain, un jour c'est toi qui seras mère. » Les mots viennent sur les lèvres de M. Lin, ses vieilles lèvres minces et craquelées. Et les mots sont un baume qui adoucit ses lèvres ainsi que son âme. Les mots de la chanson se jouent du temps, du lieu et de l'âge. Grâce à eux, il est facile de revenir où l'on est né, où l'on a vécu, dans la maison de bambou au sol à claire-voie, tout imprégné de l'odeur des feux sur lesquels on cuit le repas, tandis que la pluie égoutte sur le toit de feuilles son pelage clair et liquide. La chanson fait du bien au vieil homme. Il en oublie le froid. L'air froid vient dans sa gorge et lui donne une sensation de brûlure, mais il se surprend à songer qu'au fond ce n'est pas si désagréable. Par contre, lorsqu'il respire, il ne rencontre rien, car ce pays décidément ne sent rien, rien de familier ni de doux. Pourtant la mer n'est pas loin, M. Lin le sait, il revoit encore le bateau sur lequel il est arrivé, le grand port bordé de grues immenses qui piochait dans le ventre lourd des cargos comme pour les dépecer. Mais il a beau respirer, fermer les yeux et respirer encore, il ne sent pas l'odeur de la mer, ce mélange de chaleur, de salaison et de poissons abandonnés au soleil, qui est la seule odeur de mer qu'il ait jamais connue. Le jour, il lui a fallu aller jusqu'à la côte, à 2 jours de marche du village, pour y rechercher une vieille tante à demi-folle qui avait fini par s'y égarer. Monsieur Lin sourit au souvenir de la tante, de sa bouche édentée, de ses yeux brûlés de soleil, cette femme aux marges de la vie qui regardait la mère en lui parlant comme s'il s'était agi d'un parent. « Te voilà. Tu vois, j'ai fini par te trouver. Je te l'avais bien dit. Inutile de te cacher maintenant. » La tante était partie du village une semaine plus tôt. Elle avait erré dans les rizières pendant des jours et des nuits. Elle y avait dormi et ses cheveux s'étaient mêlés de boue. Ses vêtements s'étaient arrachés aux ronces des chemins. Elle ressemblait à ce qu'elle était devenue, une folle, vieille et épuisée, qui parlait à la mère et qu'il avait fallu prendre par la main pour la ramener jusqu'au village. Monsieur Lin était fort alors. Il avait porté la tente sur son dos durant presque tout le voyage de retour. Tous ses muscles saillaient sur son corps. Il avait les bras puissants, prompts, a arrêté un buffle en l'empoignant par les cornes. Aujourd'hui, M. Lin est vieux et fatigué. Le pays inconnu l'épuise. La mort l'épuise. Elle l'a tété comme les chevreaux avides le font avec leur mère et que celle-ci se couche sur le flanc parce qu'elle n'en peut plus. La mort lui a tout pris. Il n'a plus rien. Il est à des milliers de kilomètres d'un village qui n'existe plus, à des milliers de kilomètres de sépultures orphelines, des corps morts à quelques pas d'elle. Il est à des milliers de jours d'une vie qui fut jadis belle et délicieuse. Yeah, to hell. Sans s'en apercevoir, M. Lin vient de poser la main sur le banc en face du parc, celui où la veille il s'était reposé. Celui où cet homme un peu gros, aimable et souriant lui avait parlé et avait mis la main sur son épaule. Il s'assied et soudain lui revient le souvenir de cet homme, de sa bouche qui paraissait dévorer les cigarettes, de ses yeux à la fois graves et rieurs, de la mélodie de sa voix qui prononçait des mots qu'il ne comprenait pas. Et le souvenir du poids de sa main également, lorsqu'il la posa sur l'épaule et qu'il tressaillit de peur, avant de se sentir honteux d'avoir ainsi réagi. « Oui, c'était bien là, » se dit M. Lin, tandis qu'il pose l'enfant sur ses genoux après s'être assis sur le banc. La petite a ouvert les yeux, son grand-père lui sourit. « Je suis ton grand-père, » lui dit M. Lin, « et nous sommes tous les deux, nous sommes deux, les deux seuls, les deux derniers, mais je suis là, n'aie crainte, il ne peut rien t'arriver. Je suis vieux, mais j'aurai encore la force tant qu'il le faudra, tant que tu seras une petite mangue verte qui aura besoin du vieux manguier. » Le vieil homme regarde les yeux de Sangdiu, ce sont les yeux de son fils, ce sont les yeux de la femme de son fils, et ce sont les yeux de la mère de son fils, son épouse bien-aimée, dont le visage en lui est toujours présent à la façon d'une peinture finement tracée et rehaussée de couleurs merveilleuses. Allons, voilà que son cœur bat de nouveau trop fort, au souvenir de cette épouse en allée il y a si longtemps pourtant, alors qu'il était un homme jeune et que son fils avait à peine 3 ans. Et ne savait pas encore garder les cochons ni lier le padis. Le vieil homme pense à tout cela, assis sur ce banc qui est devenu en l'espace de 2 jours seulement un petit endroit familier, un morceau de bois flotté auquel il se serait accroché au beau milieu d'un large torrent, tourbillonnant et bizarre, et il tient au chaud contre lui la dernière branche du rameau qui pour l'instant dort de son sommeil sans peur, sans mélancolie ni tristesse, de ce sommeil de nourrisson repu, heureux de trouver la chaleur de la peau aimée, son onctuosité tiède et la caresse d'une voix aimante. « Bonjour, monsieur Taolai !» Monsieur Lin sursaute. Debout à côté de lui se tient le gros homme qui lui avait parlé la veille. Il lui sourit. « Barque, monsieur Barque, vous vous rappelez ?» reprend l'homme en lui tendant la main en signe d'amical salut. Monsieur Lin sourit, s'assure que la petite tient bien sur ses genoux et tend ses 2 mains vers celles de l'homme tout en disant « Taolai !»« Oui, je me souviens, » dit l'homme, « Taolai, c'est votre nom. Moi, c'est Barque, je vous l'ai déjà dit aussi. » Monsieur Lin sourit, il ne pensait pas à revoir l'homme, ça lui fait plaisir. C'est comme de retrouver un signe sur un chemin alors qu'on est perdu dans la forêt, que l'on tourne et tourne depuis des jours sans rien reconnaître. Il se pousse un peu pour faire comprendre à l'homme qu'il peut s'asseoir, et celui-ci le fait, il s'assoit. Aussitôt, il fouille dans ses poches, en sort un paquet de cigarettes, le tend à M. Lin. Ah, toujours pas, vous avez bien raison. Il en glisse une entre ses lèvres, qu'il a épaisse et fatiguée. M. Lin se dit « Des lèvres fatiguées, ça veut rien dire, mais pourtant c'est ça. On dirait que les lèvres de l'homme sont fatiguées. » Fatigué d'une tristesse insoluble et poisseuse. Monsieur Barque allume la cigarette qui grésille dans l'air froid, il ferme les yeux, tire la première bouffée, sourit, puis regarde la petite que Monsieur Lin serre sur ses genoux. Il la regarde et sourit encore plus d'un bon sourire. Il secoue la tête comme pour un assentiment. Monsieur Lin soudain se sent fier, fier de sa petite fille qui repose tout contre lui. Il la relève un peu pour que Monsieur Barque la voie mieux, puis il lui sourit. « Regardez-les courir !» dit soudain M. Barque en désignant la foule, tandis que la fumée de sa cigarette capricieuse s'enroule à son visage et lui fait plisser les yeux. « Ils sont si pressés d'arriver !»« Et arriver où, je vous demande ? Là où on ira tous un jour ?»« Ah, oh, je peux pas m'empêcher d'y penser lorsque je les vois comme ça !» Il laisse tomber à terre son mégot de cigarette, dont la braise rouge éclabousse le sol de quelques étoiles qui s'éteignent très vite. Avec son talon, il écrase soigneusement le mégot. Vous avez remarqué qu'ils vont presque tous dans le même sens, reprend Monsieur Barque, tout en glissant déjà une nouvelle cigarette entre ses lèvres, l'allumant avec un briquet dont la flamme est si faible qu'elle peine à embraser le tabac. Monsieur Lynn est de nouveau bercé par la voix de cet homme inconnu, inconnu malgré tout un peu moins que la veille, et qui lui parle sans qu'il puisse saisir un seul mot de ce qu'il dit. Monsieur Barque a de gros doigts dont les dernières phalanges ont pris une couleur jaune orangée à force de serrer les multiples cigarettes qu'il fume sans cesse. Il regarde le parc de l'autre côté de la rue. Il voit des mères accompagnées de nombreux enfants y entrer. On devine plus loin des bassins, de grands arbres, ce qui semble être des cages aussi, peut-être destinées à de grands animaux, peut-être à des animaux du pays de Monsieur Lynn. Et lui soudain songe que c'est là son sort, qu'il est dans une immense cage, sans barreaux ni gardiens, et que tu ne pourras plus jamais sortir. Monsieur Barque, voyant que Monsieur Lynn fixe l'entrée du parc, pointe son doigt pour le lui désigner. Là-bas, c'est un autre monde. Les gens ne courent plus. Il n'y a que les enfants qui courent. Mais eux, c'est pas pareil. Ils courent en riant. Rien à voir. Vous verriez les sourires sur les manèges. Sur les chevaux de bois de ma femme. Quel sourire! Et pourtant, un manège, c'est rien qu'un cercle qui tourne quand on y pense. Alors pourquoi ça plaît tant aux enfants? Ah, j'étais toujours émue en voyant cela. En voyant ma femme actionner le manège, savoir que son métier, c'était de donner de la joie aux enfants. Lorsque Monsieur Barque parle, Monsieur Lynn l'écoute très attentivement et le regarde, comme s'il comprenait tout et ne voulait rien perdre du sens des mots. Ce que sent le vieil homme, c'est que le ton de la voix de Monsieur Barque indique la tristesse, une mélancolie profonde, une sorte de blessure que la voix souligne, qu'elle accompagne au-delà des mots et du langage quelque chose qui la traverse comme la sève traverse l'arbre sans qu'on la voie. Et soudain, sans vraiment qu'il ait réfléchi et s'étonnant de son geste, Monsieur Lynn pose sa main gauche sur l'épaule de Monsieur Barque, comme celui-ci l'avait fait la veille, et en même temps il le regarde en lui souriant. L'autre lui rend son sourire. « Je parle. Quel bavard, hein ? Ah, vous êtes bien gentil de me supporter. Ça me fait du bien de parler, vous savez. Avec ma femme, on se parlait beaucoup. » Il reste un moment silencieux, le temps de laisser tomber son mégot à terre, de l'écraser, toujours avec la même application, de prendre une nouvelle cigarette, de l'allumer, de fermer les yeux, de savourer sa première bouffée. On pensait partir sitôt sa retraite. Il lui restait un an, mais pas question pour elle d'abandonner son manège comme ça. Elle voulait trouver quelqu'un pour le reprendre, quelqu'un de bien. Elle était difficile, elle ne voulait pas le céder à n'importe qui. C'était un peu son enfant, le manège. L'enfant qu'on n'a jamais eu. Le gros homme a les yeux qui brillent très fort. Sans doute le froid ou la fumée de cigarette, pense Monsieur Lynn. Vous partez déjà ? Monsieur Lynn s'est levé. Il vient de se rendre compte qu'il est tard, qu'il n'a rien pris dans sa poche pour nourrir sa petite fille. Il lui faut rentrer avant qu'elle ne se réveille. Monsieur Barque le regarde avec étonnement et tristesse. Monsieur Lynn comprend qu'il est surpris et déçu aussi, sans doute, alors il désigne de la tête l'enfant qui dort. Sans Dieu, dit alors Monsieur Barque en souriant. Monsieur Lynn fait oui de la tête. Eh bien, au revoir, Monsieur Taolai. À la prochaine. Le vieil homme s'incline à trois reprises pour saluer Monsieur Barque, et celui-ci, comme il ne peut serrer la main de Monsieur Lynn qui tient la petite fille contre lui, pose la sienne sur l'épaule du vieil homme, lourdement, avec chaleur. Monsieur Lynn sourit. C'est tout ce qu'il souhaitait. Quand il arrive au dortoir, la femme du quai est là, qui l'attend avec la jeune interprète. Elles étaient inquiètes de ne pas le voir rentrer. C'est ce que lui dit la jeune fille. Monsieur Lynn explique sa promenade. Il parle aussi du banc et du gros homme sur le banc. Elles sont rassurées. La femme du quai lui fait demander si tout va bien, s'il a besoin de quelque chose. Monsieur Lynn s'apprête à dire non, mais il se ravise et demande à la jeune fille s'il a le droit à des cigarettes. Oui, il voudrait bien des cigarettes. Je ne savais pas que vous fumiez, oncle, dit la jeune fille. Et elle traduit. La femme du quai écoute tout en lui souriant. C'est d'accord, il aura un paquet de cigarettes par jour. Quand elle s'apprête à partir, soudain, la femme du quai s'entretient longuement avec la jeune fille. Celle-ci approuve de temps à autre. Elle se tourne vers Monsieur Lynn et lui dit « Oncle, vous ne pourrez pas toujours rester ici dans le dortoir. C'est une solution passagère. Le bureau des réfugiés va bientôt examiner votre cas comme il le fait pour tous. Vous verrez des personnes qui vous poseront des questions, un médecin aussi. N'ayez crainte, je serai là avec vous. Ensuite, ils proposeront quelque chose de définitif et un lieu sera trouvé où vous pourrez être plus tranquille. Tout ira bien. » Monsieur Lynn a écouté la jeune fille, il ne sait quoi lui dire, alors il ne dit rien. Il n'ose pas. Il n'ose pas lui dire que malgré les familles, il se sent plutôt bien dans ce dortoir, que la petite fille s'est habituée et semble s'y plaire. Au lieu de tout cela, il pose une question, une seule. Il demande à la jeune fille comment on dit « bonjour » dans la langue de ce pays. La jeune interprète le lui dit. Il répète le mot plusieurs fois pour l'ancrer dans sa mémoire. Il ferme les yeux pour se concentrer. Lorsqu'il les rouvre, les deux femmes le regardent en souriant. Monsieur Lin demande alors à la jeune fille dans quelle province elle est née. « Je suis née ici, dit-elle. J'étais dans le ventre de ma mère quand mes parents sont arrivés sur un bateau comme vous. » Les deux femmes sont près de la porte. Elles lui tendent la main. Monsieur Lin serre leurs mains puis s'incline en tenant l'enfant qui dort toujours contre lui. Le lendemain, le jour est plus clair. Le soleil mord le ciel de sa lumière blanche. Il fait plus froid aussi. Monsieur Lin marche sur le trottoir, enrobé de tous ses vêtements, tenant l'enfant, bien sûr. Dans la poche de son manteau, il a glissé le paquet de cigarettes qu'on lui a donné ce matin. Le paquet de cigarettes fait une petite bosse que le vieil homme sent tout en marchant. Rien que de sentir cette petite bosse, il sourit. Il pense au visage du gros homme quand il va lui tendre le paquet. Monsieur Lin ne fait pas plusieurs fois le tour du pâté de maison. Il s'approche immédiatement du banc et s'assoit. C'est agréable d'être assis là, par ce jour très clair, sur ce banc et d'attendre. La foule n'a pas la même allure que les autres jours. Elle est toujours aussi dense, mais les gens marchent moins vite. Ils sont par petits groupes et semblent à Monsieur Lin richement vêtus. Ils discutent entre eux, beaucoup rient ou ont le visage tendu. « Est-ce que je leur fais peur ?» se demande Monsieur Lin. Alors il cherche à se regarder et ne voit qu'une grosse boule de laine rembourrée et difforme, composée d'écharpes, de bonnets, de manteaux, de pulls. Sans doute, je leur fais peur. Ils doivent me prendre pour un génie malfaisant déguisé en vieil homme. Cette pensée amuse Monsieur Lin. En face de lui, de l'autre côté de la rue, des familles par centaines se pressent à l'entrée du parc, tandis que d'autres en sortent. Ce sont deux courants bariolés et bruyants qui se mêlent et s'agitent parfois en de grands tourbillons, pareils à ceux qui naissent pendant la saison des pluies dans la rivière des douleurs qui roule ses eaux non loin du village. On l'appelle ainsi parce que la légende raconte qu'une femme y perdit ses 7 enfants le même jour en voulant les y baigner. Et depuis ce jour, si on prête l'oreille, assis sur la berge, on peut entendre certains soirs les pleurs de la femme montée de la rivière dans laquelle elle a fini par se jeter elle-même, inconsolable de la mort de ses petits. Mais ce n'est qu'une légende qu'on murmure près du feu le soir aux enfants pour les effrayer afin qu'ils fassent attention à ne pas se noyer. Car en vérité, c'est une belle rivière à l'eau limpide et poissonneuse. On y débusque les crevettes d'eau douce, les petits crabes que l'on grille ensuite sur les braises. Le bambou y trempe en attendant qu'on l'étuve. La rivière a la couleur des arbres qui s'y reflètent et dont les racines descendent dans son lit pour épuiser les frais. Des oiseaux verts et jaunes rasent sa surface. On dirait des flèches de lumière insaisissables, presque rêvées. Monsieur Lin rouvre les yeux. Il faudra qu'il raconte tout cela un jour à Sandiu. Qu'il lui dise la rivière, le village, la forêt, la force de son père et le sourire de sa mère. Il regarde à nouveau l'entrée du parc. Il aimerait bien aller voir ce qu'il y a de merveilleux là-bas. Mais c'est de l'autre côté de la rue, et celle-ci, large, immense, est toujours striée de voitures. Le temps s'écoule. Monsieur Lin mesure cela au froid qui traverse ses chaussures, ses 3 paires de chaussettes et gagne ses pieds. Le temps s'en va et il est toujours seul sur le banc. Le gros homme ne vient pas. Peut-être ne viendra-t-il pas. Peut-être ne viendra-t-il plus jamais. Monsieur Lin sent le paquet de cigarettes dans la poche de son manteau. La petite bosse, maintenant, commence à faire naître en lui une tristesse infinie. Il se souvient du contact de la main du gros homme lorsqu'il l'a posée sur son épaule. Il se rappelle alors qu'il est le seul au monde avec sa petite fille, seul à deux, que son pays est loin, que son pays, pour ainsi dire, n'est plus rien que des morceaux de souvenirs et de songes qui ne survivent que dans la tête du vieil homme fatigué. Le jour décline au loin, le soleil semble chuchoter lourdement dans le ciel. Il faut rentrer, le gros homme n'est pas venu. Monsieur Lin repart avec le paquet de cigarettes dans sa poche et dans sa bouche le mot qui veut dire bonjour et qu'il n'a pas prononcé. Le lendemain, lorsqu'il se réveille, il est tard. Ce jour-là, Monsieur Lin tarde à sortir. Au dehors, le temps est gris. Il tombe une pluie fluide et glaciale, la même que celle qui les avait accueillis le premier jour. Le ciel très bas paraît vouloir écraser la ville. La foule sur le trottoir a repris sa course frénétique. Il n'y a plus de flamilles qui flânent. Beaucoup d'hommes et de femmes regardant en l'air et souriant. Monsieur Lin ressemble au tronc d'un petit arbre mort, emporté par le courant et que les eaux entraînent, ballotte sans qu'il ne puisse rien y faire. « Monsieur Taolai ! Monsieur Taolai !» Comme dans un rêve, le vieil homme entend une voix chaude et enrouée lui dire deux fois bonjour. Mais soudain, il comprend que la voix ne vient pas d'un rêve, mais de derrière lui. Et au moment où il réalise cela, il reconnaît la voix. Alors il s'arrête de marcher au risque de se faire bousculer, se retourne et aperçoit à 10 mètres un bras qui se lève, puis un autre, et la voix reprend et lui dit de nouveau « bonjour, bonjour » à 2 reprises. Monsieur Lynn sourit. C'est comme si le jour déchirait un peu sa grisaille. En 3 secondes, Monsieur Bark est à ses côtés, tout essoufflé, avec un large sourire sur son visage. Le vieil homme ferme les yeux, part chercher dans sa mémoire le mot que lui a donné la jeune fille, interprète, et dit à haute voix en regardant Monsieur Bark « Bonjour ». Monsieur Bark a du mal à reprendre son souffle, il a trop couru. Monsieur Lynn sent son haleine parfumée de tabac. Le gros homme lui sourit. « Oh, ça fait rudement plaisir de vous voir. Mais venez, ne restons pas là, on va attraper la mort avec cette pluie. » Et il entraîne le vieil homme, sans lui demander son avis, vers une destination inconnue. Monsieur Lynn se laisse faire, il est heureux. Il irait n'importe où, conduit par le gros homme. Dans sa poche, il sent les 2 paquets de cigarettes, et cela le fait encore davantage sourire. Il n'a plus froid, il oublie le dortoir, les femmes mauvaises, la querelle des 2 hommes. Il est là, à marcher, portant tout contrôler sa petite fille, aux côtés d'un homme qui le dépasse de 2 têtes, qui doit peser le double de son poids et qui fume sans cesse. Monsieur Bark pousse la porte d'un café et fait entrer Monsieur Lynn. Il choisit une table dans un angle et fait signe au vieil homme de s'asseoir sur la banquette tandis que lui prend la chaise. « Oh, quel temps, vivement les beaux jours !» dit Monsieur Bark en se frottant les mains et en allumant une nouvelle cigarette. Il aspire la première bouffée, toujours de la même façon, en fermant les yeux quelques secondes. Il regarde l'enfant, sourit. « Sans Dieu !» dit-il. Monsieur Lynn fait oui de la tête, contemple la petite fille qu'il a posée sur la banquette à ses côtés et qui a fermé les yeux lorsqu'il l'a couchée. « Sang Diu, » reprend-il avec fierté, « parce qu'il la trouve très belle, qu'elle ressemble à son fils, à la femme de son fils, et qu'à travers elle, il remonte au portrait aimé de sa femme à lui. « Je vais commander, » dit Monsieur Bark, « sinon on ne sera jamais servi. Faites-moi confiance, Monsieur Taolai, par ce temps, je sais ce qu'il nous faut pour nous réchauffer, d'accord ?» Monsieur Lin ne sait pas pourquoi le gros homme lui dit sans cesse bonjour, mais il le fait avec tant de douceur et de gentillesse qu'il trouve ça charmant. Il a compris qu'il lui posait une question sans en connaître le sens, alors il fait un léger mouvement de la tête comme pour dire oui. « C'est parti !» Monsieur Bark se lève, se dirige vers le comptoir. Il s'adresse au barman pour passer la commande. Le vieil homme en profite pour sortir précipitamment les 2 paquets de cigarettes et les dépose sur la table à côté du briquet du gros homme. Un briquet en métal, tout cabossé, comme s'il avait reçu de multiples coups. Monsieur Bark reste un moment près du bar. Il attend les consommations. Monsieur Lynn, pour la première fois, le voit ainsi de dos. La voix de Monsieur Bart le tire de ses réflexions. « Attention, chaud devant !» Il porte 2 tasses qui fument et répandent dans l'air une étrange odeur citronnée, voluptueuse. Il les pose sur la table et s'assied. Comme il est très occupé à faire attention à ne pas renverser les boissons et à ne pas se brûler non plus, Monsieur Bart n'a pas encore remarqué les 2 paquets de cigarettes devant lui. Lorsqu'il les voit, la première chose qu'il pense, c'est que quelqu'un a fait une erreur. Il s'apprête à se retourner, puis s'arrête car il vient de comprendre. Il regarde le vieil homme qui sourit malicieusement. C'est la première fois depuis longtemps qu'on fait un cadeau à Monsieur Bark. Sa femme lui offrait souvent des petites choses, un stylo, une cravate, un mouchoir, un porte-monnaie. Lui aussi lui offrait des petites choses, une rose, un parfum, un foulard, en dehors des occasions traditionnelles. C'était comme un jeu entre eux. Il prend les 2 paquets de cigarettes dans sa main. Il se sent plein d'une grande émotion, à cause de ces 2 simples paquets de cigarettes, d'une marque qu'il n'aime pas d'ailleurs, qu'il ne fume jamais parce qu'elles ont une odeur mentholée qu'il ne supporte pas. Mais cela n'a aucune importance. Il regarde les paquets, regarde le vieil homme en face de lui. Il aurait presque envie soudain de le serrer dans ses bras. Il ne trouve pas les mots car dans sa gorge, elle s'en mêle un peu. Il s'éclaircit la voix et dit simplement oh, « Merci ». Merci, Monsieur Taolai. Fallait pas, ça me fait plaisir, vous savez, rudement plaisir. Monsieur Lin est heureux car il sent que le gros homme l'est aussi. Alors, comme il semble que dans ce pays on dit bonjour souvent, Monsieur Lin a dit à Monsieur Bark de nouveau bonjour en prononçant le mot que lui a appris la jeune interprète. Vous avez raison, répond alors Monsieur Bark. C'est un bonjour. Et de ses gros doigts, il enlève l'emballage de cellophane de l'un des paquets, il déchire la feuille de papier d'argent, tape sur le fond du paquet, propose une cigarette à Monsieur Lynn, qui refuse en souriant, sourit lui-même d'un air de dire « toujours pas », en glisse une entre ses lèvres, l'allume avec son briquet éreinté, aspire la première bouffée, ferme les yeux. Et parce que c'est le vieil homme qui lui a offert ses cigarettes, il les trouve soudain bien meilleures qu'elles ne l'étaient dans son souvenir, oui, bien meilleures. C'est même très agréable ce parfum de menthe. Monsieur Bark a l'impression de s'alléger. Il a l'impression que ses poumons se dilatent, que l'air y entre mieux. Il s'épanouit. Il fait bon dans ce café. C'est ce que pense aussi Monsieur Lynn. Il fait bon ici. Il n'y a presque personne. Ils sont tous les deux, l'enfant dort. C'est comme si elle était dans un lit, tout est bien. Mais buvez donc ! Buvez donc, ça se boit chaud, sinon ça sert à rien. Monsieur Barque montre l'exemple. Il prend la tasse entre ses deux mains, souffle sur la boisson à plusieurs reprises, en avale une gorgée en faisant une sorte de sifflement. Le vieil homme tente de l'imiter. Il saisit la tasse, souffle, avale, siffle, mais soudain il est pris d'une quinte de toux. Ah, c'est costaud, hein ? Mais vous verrez, ça va vous réchauffer. Le secret, c'est qu'il faut conserver cela bouillant. Eau bouillante, sucre, citron et une bonne rasade d'alcool. En n'importe lequel, celui que vous avez sous la main. C'est pas plus compliqué. Jamais Monsieur Lynn n'a bu quelque chose qui ressemblait à cette boisson. Il reconnaît bien le goût du citron, mais pour le reste, tout est nouveau. Comme est nouveau surtout cet étrange flottement qui le saisit et le fait tanguer sur la banquette. Le visage du gros homme s'est coloré, ses joues sont rouges comme des lanternes de papier. Il semble aimer les cigarettes que lui a offertes Monsieur Lynn, car il ne cesse d'en fumer, allumant la nouvelle avec ce qui reste de l'ancienne. Le vieil homme ouvre son manteau, déboutonne aussi son imperméable, et puis il rit sans raison. Il sent son visage qui le cuit, il a la tête qui tourne un peu aussi. « Alors, on sent mieux, non ?» lui dit Monsieur Barque. « On venait parfois avec ma femme ici en hiver. C'était tranquille. Il n'y a pas trop de bruit. » Mais soudain, il devient morose, son rire s'éteint comme un brasier sur lequel on jette une poignée de terre. Il fait tourner sa tasse presque vide dans laquelle la tranche de citron s'est affaissée. Ses yeux brillent, il penche son front, il se tait. Monsieur Lynn le regarde et lui sourit. « C'est parfois moche, hein, la vie, » lui dit Monsieur Barque. Le vieil homme ne dit rien, il lui sourit toujours. Puis comme pris d'un besoin qu'il ne peut réfréner, il commence à chantonner. « Toujours il y a le matin. » Il chantonne la chanson dans la langue du pays qui fait une musique fragile, syncopée, un peu sourde. Toujours revient la lumière, toujours il y a un lendemain. Monsieur Barque l'écoute, la musique l'enrobe. Un jour, c'est toi qui seras mère. Monsieur Lynn se tait. Que lui a-t-il pris? Pourquoi chanter au gros homme la chanson? Pourquoi lui fredonner ces paroles qu'il ne peut pas comprendre? Il a soudain honte. Il voit Monsieur Barque qui le regarde et qui semble de nouveau heureux. C'est beau, Monsieur Taolai, c'est très beau, même si on ne comprend pas les mots. Merci. Le vieil homme reprend délicatement l'enfant qui dort toujours. « C'était un bon moment, lui dit celui-ci. Ça m'a fait du bien. »« Bonjour, dit Monsieur Lynn. »« Eh bien, au revoir, Monsieur Taolai, dit Monsieur Barque. À demain, j'espère. » Le vieil homme se lève, il salue deux fois. Le gros homme lui met la main sur l'épaule, Monsieur Lynn s'en va. Mais au moment où il s'apprête à passer la porte du café, il entend Monsieur Barque lui lancer. « Et merci pour les cigarettes !» tout en agitant les deux paquets bien haut. Le vieil homme sourit, incline sa tête et sort. L'air frais le gifle, la marche dérouille ses vieilles jambes. Il sent tout à la fois très lourd et très léger. Il a un peu mal à la tête, sa bouche a un drôle de goût, mais il est heureux. Heureux d'avoir vu le gros homme et d'avoir partagé un moment avec lui tandis que l'enfant se reposait. Lorsqu'il pousse la porte du dortoir, la nuit est tombée au dehors. Chaque jour, M. Lynn retrouve M. Barque. Lorsque le temps le permet, il reste dehors, assis sur le banc. Quand il pleut et retourne au café, M. Barque commande l'étrange boisson qu'ils boivent en serrant les tasses entre leurs mains. Désormais, le vieil homme, dès qu'il se lève, attend ce moment où il ira rejoindre son ami. Il se dit dans sa tête « son ami », car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le gros homme est devenu son ami, même s'il ne parle pas la même langue, même s'il ne la comprend pas, même si le seul mot dont il se sert est « bonjour ». Mais ce n'est pas important. D'ailleurs, le gros homme ne connaît lui-même qu'un seul mot de la langue de M. Lynn, et c'est le même mot. Grâce à M. Barque, le pays nouveau a un visage, une façon de marcher, un poids, une fatigue, un sourire, un parfum aussi, celui de la fumée des cigarettes. Le gros homme a donné tout cela à M. Lynn sans le savoir. Parfois, tous deux déambulent dans les rues, non plus dans la rue, mais dans les rues, car M. Barque promène M. Lynn dans la ville entière, lui fait découvrir d'autres quartiers, des places, des avenues, des ruelles, des endroits déserts, et d'autres pleins de magasins et de gens qui entrent et en sortent comme les abeilles d'une ruche. Des yeux et des visages ce curieux couple, le vieil homme si petit qui paraît tellement vulnérable enrobé dans ses multiples couches de vêtements, et ce géant fumant comme une locomotive, et les yeux se posent ensuite sur Sangdu, la merveille de M. Lynn, qu'il garde dans ses bras à la façon d'un trésor. Un jour, M. Barque amène M. Lynn près de la mer. C'est la première fois que le vieil homme revoit la mer, depuis son arrivée quelques mois plus tôt. Le gros homme l'a emmené au port, non pas là où il a débarqué, sur le quai gigantesque encombré de grues, de cargaisons déchargées, de camions en attente, d'entrepôts béants, mais dans un endroit plus calme, qui forme une courbe dans laquelle l'eau et les bateaux de pêche composent une peinture colorée. Les deux amis marchent un peu sur le quai et s'assoient sur un banc face à la mer. Monsieur Lynn respire. Il respire fort en fermant les yeux. Ouais, il s'était pas trompé. Il y a là des parfums, de véritables parfums, de sel, d'air, de poissons séchés, de goudron, d'algues et d'eau. Que c'est bon! C'est la première fois que ce pays sent vraiment quelque chose, qu'il a une odeur. Le vieil homme en est grisé. Du fond du cœur, il remercie son ami de lui avoir fait connaître cet endroit. Monsieur Lynn lève alors la main, pointe son doigt vers la mer, le large, l'horizon bleu et blanc, puis il dit à haute voix le nom de son pays. Alors Monsieur Barque, qui regarde aussi dans la même direction, sent dans toutes ses veines des filets de feu jaillir et courir, et lui aussi des images lui reviennent, terribles, odieuses, inhumaines. Lui aussi, à haute voix, dit le nom du pays qui est par-delà les mers, le pays de Monsieur Lynn. Il dit le nom à plusieurs reprises, de plus en plus sourdement, tandis que ses épaules s'affaissent, que tout son corps s'affaisse, qu'il en oublie tout, qu'il en oublie même de rallumer une autre cigarette, alors qu'il vient de laisser tomber à terre le mégot de la précédente, sans l'écraser du talon ainsi qu'il le fait toujours. Monsieur Barque n'est plus qu'un gros homme voûté qui répète faiblement le nom du pays de Monsieur Lynn, comme une litanie, tandis que dans ses yeux viennent des larmes qu'il ne cherche même pas à essuyer ni à arrêter de ses mains. Et ces larmes dévalent sur ses joues, trempent son menton, son cou, s'immiscent dans le col de sa chemise pour disparaître contre sa peau. Le vieil homme s'en rend compte. Il pose la main sur l'épaule de son ami et le secoue doucement. Monsieur Barque cesse alors de regarder le large et le regarde, lui, à travers toute cette eau qui sort de son regard. « Je le connais, votre pays, monsieur Taolai, je le connais, » commence à dire monsieur Barque, et sa grosse voix n'est plus qu'un filet fragile, ténu, mince, prêt à se briser. « Oui, je le connais, » reprend-il en regardant de nouveau la mer et le lointain. « Il y a longtemps, j'y suis allé, je n'osais pas vous le dire. On m'a pas demandé mon avis, vous savez, on m'a forcé à y aller. J'étais jeune, je savais pas, c'était une guerre, pas celle qu'il y a maintenant, une autre, c'est une des autres. » À croire que sur votre pays s'acharnent toutes les guerres. Monsieur Barque s'arrête un instant, les larmes coulent sans cesse. J'avais 20 ans, mais qu'est-ce qu'on sait à 20 ans? Moi, je savais rien. Je n'avais rien dans ma tête, rien. J'étais encore un grand gosse, c'est tout. Un gosse. Et on a mis un fusil dans mes mains, alors que j'étais presque encore un enfant. J'ai vu votre pays, monsieur Taolai. Ah oui, je l'ai vu. Je m'en souviens comme si je l'avais quitté hier. Tout est resté en moi. Les parfums, les couleurs, les pluies, les forêts, les rires des enfants, leurs cris aussi. Monsieur Barque tourne son regard noyé vers le ciel. Il renifle fort. Quand je suis arrivé, que j'ai vu tout cela, je me suis dit que le paradis devait y ressembler, même si le paradis, j'y croyais déjà pas trop. Et nous, ce paradis ? On nous a demandé d'y semer la mort avec nos fusils, nos bombes, nos grenades. Monsieur Lynn écoute le gros homme qui lui parle doucement alors que les larmes coulent toujours de ses yeux. Le vieil homme l'écoute avec attention, cherchant dans les inflexions de sa voix les signes, le début d'une histoire, d'un sens, une intonation familière. Il songe à la photographie que son ami lui a montrée quelques semaines plus tôt, la photographie de la grosse femme rieuse. Il songe aussi à l'étrange manège qu'ils sont allés voir tantôt, tous les deux, dans le parc, tournant et tournant autour de lui sans cesse. Il y avait quantité de chevaux de bois accrochés à des hampes, le manège tournait, les chevaux montaient, descendaient, les enfants qui étaient dessus riaient, adressaient des signes à leurs parents. Il y avait une musique forte et joyeuse. Monsieur Lynn observe son ami qui pleure et qui parle. Il se persuade que la femme de la photographie, le manège de chevaux de bois, l'un et l'autre composent une partie de la vie morte du gros homme et que c'est cette partie défunte de son existence qui a aujourd'hui ressurgi brusquement alors qu'ils sont là devant la mer par ce jour ensoleillé et presque doux déjà. Tous ces villages dans lesquels on est passé dans la jungle, ces gens qui vivaient de rien et sur lesquels on devait tirer, Ces maisons toutes fragiles, faites de paille et de bois comme sur votre photographie, vous savez, le feu dans ces maisons, les hurlements, les enfants qui s'enfuyaient nus sur les chemins dans la nuit et les flammes. Monsieur Barque s'est tu. Il pleure toujours, il a la nausée, une nausée qui vient de très loin et qui le remue, le boxe, le bourre de cou, l'écrase, la honte le travaille comme une bile. Je vous demande pardon, monsieur Taolai, pardon pour tout ce que j'ai fait à votre pays, à votre peuple. J'étais qu'un gamin, un sale con de gamin qui a tiré, qui a détruit, qui a tué sans doute. Ah, je suis un salaud, un vrai salaud. Monsieur Lin regarde son ami. Un grand sanglot le secoue, interminable, comme né du dernier mot qu'il vient de prononcer. Cela ne se calme pas. Tout le corps du gros homme tremble. On dirait un navire mis à mal par une tempête. Monsieur Lin essaie d'entourer de son bras l'épaule de son ami, sans y parvenir, car son bras est trop petit pour la grande épaule. Il lui sourit. Il s'efforce de mettre beaucoup de choses dans ce sourire, plus de choses que n'importe quel mot ne pourra jamais contenir. Puis il se tourne vers le large, fait comprendre au gros homme qu'il lui faut aussi regarder là-bas, très au loin. Et alors, avec une voix non pas triste, mais pleinement joyeuse, Monsieur Lin redit le nom de son pays qui sonne soudain comme un espoir et non plus comme une douleur, avant de serrer son ami dans ses deux bras et de sentir, protégé et non pas écrasé par eux, le corps de San Diu entre les leurs.
But expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in the sand pit, life is a short trip. The music's for the sad man.
Bien, Eh bien, merci Catherine pour cette belle histoire, une histoire prenante. Hein. Ça prend un petit peu au trip quand même.
Et puis une histoire qu'il faut finir de lire, car évidemment, je ne suis pas arrivée au bout de l'histoire. Vous avez compris que le vieil homme va être déplacé à un autre endroit de la ville. On va le mettre dans une maison de retraite, loin de la ville, et qui s'imagine qu'il va jamais retrouver son ami Monsieur Barque. Et il n'a plus qu'une obsession, essayer de le retrouver dans cette grande, grande ville, en fait. Alors, va-t-il le retrouver? Il n'y a qu'une solution pour le savoir. Et il y a en plus une chute assez violente,
qu'on ne va pas dévoiler.
Voilà, sûrement pas. Donc moi, je vous conseille fortement de lire, et il n'y a plus grand-chose de toute façon, hein, c'est quand même un court roman, de lire « La petite fille de Monsieur Lynn » de Philippe Claudel. Vous trouvez ce livre, évidemment, dans les bibliothèques, mais dans les librairies. C'est en livre de poche, donc ça ne coûte pas très cher.
Ça date de quand?
Alors, il l'a écrit en 2005, celui-ci.
Oui.
Voilà. C'est une histoire triste, mais c'est aussi une belle histoire d'amitié.
C'est une belle
histoire. Comme quoi, même sans une langue commune, on a quand même, on peut partager des sentiments.
Et puis c'est une histoire quand même, très singulière.
Très singulière. Et parler des boat people, de l'exil, des migrants, je crois que c'est aussi d'actualité.
C'est un petit peu d'actualité.
Voilà.
Bien, eh bien merci Catherine. Bonne émission à tous. Et puis au mois prochain.
Oui,
au mois prochain, nous retrouverons certainement Hervé pour une nouvelle lecture. Donc, au revoir à tous.
Au revoir.
Au mois prochain. À bientôt.